Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir de vous visiter. Un plaisir parce que oui, on a passé du temps au milieu de vous il y a plus de 10 ans. Oh là, ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est aussi un plaisir parce que vous êtes des collaborateurs fidèles dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous le savez, mais une partie des missionnaires que vous soutenez, une petite partie, enfin une belle partie, une partie, c'est nous. Et on est vraiment reconnaissants parce que si aujourd'hui, nous pouvons continuer à travailler à Herstal pour la gloire de Dieu, c'est en bonne partie grâce à vous. Donc on veut vous remercier pour votre soutien fidèle depuis maintenant de longues années. Merci. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, on a du soleil quand même, ça fait du bien. Ah, un peu de soleil, c'est agréable, ça faisait longtemps. Et ces derniers jours, je rentre à la maison et je croise un voisin. Et il me demande comment tu vas. Je fais, ah, ça va, et toi? Il me fait, la météo. Puis il me regarde, il fait, tu pourrais pas lui demander qu'on fasse autre chose? Puis sur le coup, j'ai été un peu pris sur le vif. J'ai fait, de toute façon, quoi qu'il nous donne, on n'est pas content. Donc j'ai répondu comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe pour la météo, pour demain, pour les mois prochains? Qu'est-ce qui se passe pour l'année prochaine au niveau géopolitique? La Russie, l'Ukraine, jusqu'où ça va aller? Gaza, Israël, qu'est-ce qui va se passer? Seigneur, qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est quoi les projets pour la suite? Et d'ailleurs même, c'est quoi les projets pour ma suite? Qu'est-ce qui va m'arriver dans quelques années? Qu'est-ce qui va m'arriver quand je rendrai mon dernier soupir? J'étais étonné d'entendre à la radio quelqu'un qui parlait de Madame de Fontenay, une grande dame française, et on parlait d'elle et on disait qu'elle était terrifiée à l'idée de mourir. Elle était terrifiée à l'idée de passer de l'autre côté. Et son entourage témoignait et disait « Ah, qu'est-ce que ça devait être difficile !» Son entourage s'inquiétait pour elle parce qu'il savait qu'elle avait peur de passer de l'autre côté. C'est vrai, quand même, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Il y a plein de livres qui nous en parlent. On entend même parfois des témoignages sur Facebook, sur Instagram, de personnes qui ont vu la lumière, qui ont été... Mais j'aimerais vous parler d'un livre qui nous parle de ce qu'il y a de l'autre côté. Ce livre, ce n'est pas n'importe quel livre. Vous pouvez même l'acheter au bon livre, juste à côté. Cette partie est peut-être un peu moins connue, mais elle est fiable et elle est importante pour notre marche chrétienne. Ce livre, oui, c'est la Bible, et plus particulièrement l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble, survoler ensemble, deux chapitres qui sont vraiment très importants pour comprendre le cœur de l'Apocalypse pour nous aujourd'hui. Quand on parle d'Apocalypse, on voit la bête qui sort de l'eau, on pense aux chiffres de la bête, on pense à l'Antichrist, à plein de choses qui font peur. Et c'est vrai, il y a des éléments qui font peur, mais il est bon de regarder quelque part ce qui préside à la destinée du monde, à ce qui préside, ce qui est le cœur, la clé pour comprendre l'Apocalypse, la clé pour comprendre notre avenir après la mort, mais même l'avenir de l'humanité. Regardons ensemble aujourd'hui et nous allons voir qu'en Apocalypse chapitre 4, on nous donne justement la possibilité de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Apocalypse chapitre 4, et pour commencer, nous lirons juste le premier verset. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendu me parler avec la force d'une trompette, dit alors, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Ah, pour une fois, une rare fois, ici, nous avons une porte qui s'ouvre. Nous voyons ce qui se passe de l'autre côté, ce que l'œil humain normalement ne voit pas. Nous avons ici une révélation de ce qu'il se passe dans le monde céleste. Ce qui se passe dans les mains de ceux qui président à la destinée de l'humanité. Quelque chose de merveilleux, d'incroyable, et qu'il est bon de savoir pour nous. Alors que nous passons par des inquiétudes climatiques au mois de juin, il est bon de savoir qui préside et quel est son pouvoir. Alors que peut-être nous passons par des périodes difficiles au travail, il est bon de savoir qui préside et ce qui se passe par la suite. Lorsqu'on a des soucis de santé, des soucis d'ordre familial, des soucis au niveau même du pays, il est bon de se rappeler qui préside et quelle est sa puissance. Alors regardons qui qui est de l'autre côté de cette porte. Regardons ensemble qui sont ceux qui tiennent les rênes de la destinée de l'humanité. Lisons ensemble Apocalypse, nous sommes toujours dans le chapitre 4 et nous lirons ensemble des versets 1 à 14. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Il ne cesse de dire jour et nuit. Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Jusqu'ici notre lecture. Un passage qui nous en met plein la vue. Ici, on a un auteur qui prend le temps d'écrire, de nous donner plein d'images. On est un peu comme au cinéma, quoi, sur grand écran. C'est le genre d'histoire qu'on ne peut pas regarder à la maison sur une petite télé. Il faut regarder ça au cinéma, grand écran. Ici, on a plein d'images très fortes qui décrivent le trône d'où vient l'autorité, mais le trône de Dieu. Comment ça nous est décrit? On voit un trône qui semble tellement grand, avec des éclairs, avec un arc-en-ciel. Ce qui fait quelque part un écho à l'arc-en-ciel autour de l'histoire de Noé, avec cette promesse que Dieu fait à l'homme. On a cet arc-en-ciel, ce rappel, ce mémorial qui est là. On a une mer. La mer, dans la Bible, c'est un endroit qui fait peur, un endroit puissant, un endroit où il y a les tempêtes. Et il y a toute cette puissance qui est là, comme calmée autour de Dieu, comme du cristal. Puis on a 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants, ils ont fait couler de l'encre. Mais la plupart des commentateurs, des théologiens, soulignent qu'ici, on a un petit peu une représentation de toute la création, de tous les êtres vivants qui sont sur Terre. On a d'un côté le lion, un être vivant avec une face de lion, qui représente quelque part le plus puissant des animaux sauvages. Puis on a un autre avec une face de taureau, le plus puissant quelque part des animaux domestiques. Ensuite, on a le visage d'homme, quelque part le summum de la création, celui qui est capable de penser cet être spirituel, nous. Et puis enfin, on a l'aigle, symbole majestueux de puissance, et on ne sait pas si on parle d'un aigle majestueux qui représente tous les oiseaux ou un être spirituel qui représente tout ce monde spirituel. En tout cas, on a là tout cet entourage autour de Dieu, autour du trône, qui est ô combien puissant et qui nous pousse à considérer la grandeur de celui qui est sur le trône et qui est entouré par toute cette cour. Il y a quelques années, peut-être vous vous en souvenez, on a eu la visite du président américain qui est venu en Belgique. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu dans les médias tout le tapage que ça a fait autour. Les forces spéciales belges étaient sur le qui-vive, elles étaient présentes, elles l'ont entouré tout du long. Il paraît qu'il est venu avec sa suite, cuisinier, ambassadeurs, représentants, experts en communication et autres. Apparemment, il a pris un petit groupe, il n'était que 1000. Pas mal. Ça, c'est juste les personnes qui l'entourent, pour lui donner conseil, vérifier sa nourriture, vérifier qu'il a bien dormi. 1000 personnes. Alors qu'il était ici, en Belgique, tous les puissants sont venus lui serrer la main. Le roi est venu lui serrer la main, premier ministre, ministre des pays qui nous entourent, l'Allemagne et la France, sont venus lui serrer la main. Juste là, on a une image de puissance, avec tous ces soldats, ces forces spéciales, sécurité, puissants des autres pays qui viennent, et tout ça nous pousse à considérer la puissance de cet homme. Ici, quel est l'entourage qui entoure Dieu ? On a toute la mer qui est calmée devant lui, comme du cristal. On a tous les êtres vivants qui sont là, symbolisés par ces quatre êtres vivants. On a l'univers tout entier qui tourne autour de lui, les éclairs, la nature. Tout entoure Dieu et manifeste son autorité, sa puissance, sa grandeur. Quelle grandeur et quelle puissance ! Et ici, on a tous ces êtres qui sont en train de faire quelque chose. Quelque chose qui est presque éternel. Qu'est-ce qu'ils font alors qu'ils sont autour du trône, qu'ils sont autour de Dieu ? Que font-ils ? Ils sont en train de le louer. Ils lui rendent gloire. Toute la création lui rend gloire. Et toute la création dit « Tu es digne ». Regardez avec moi le verset 11 et regardez en quoi il est digne de recevoir cette adoration, pour ainsi dire, cosmique. Regardez avec moi. Verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Il a tout créé, et pour cette raison, il mérite de recevoir toute la gloire. Il mérite que nous lui apportions la louange, l'adoration pour qui il est. Constamment. Et on voit tous ces êtres, toute la création qui l'entoure, les 24 anciens qui peuvent représenter soit les 12 patriarches de l'Ancien Testament et du Nouveau, ou peut-être les rois de toute l'histoire. On a ces êtres qui sont là autour et qui constamment lui apportent honneur et gloire, constamment lui offrent leur couronne. Tout l'univers qui est constamment en train de louer Dieu. Et nous, aujourd'hui, en 2024, est-ce que nous aussi, nous offrons à Dieu cette reconnaissance ? Est-ce que nous le glorifions vraiment ? Je ne sais pas si vous avez entendu hier dans les rues, mais hier ça glorifiait. Hein. Vive la Belgique ! Vive les 11 Belges qui ont bien couru et bien frappé dans le ballon. Ouais, ils ont bien fait. Et c'est marrant que tout le monde est très fier de ça. Et franchement, ils ont bien joué. Par rapport au premier match, ils ont très bien joué. Je suis content d'eux. Mais c'est fou comme facilement on peut célébrer des footballeurs. Facilement on peut dire autour de nous, et vous avez vu De Bruyne, oh, pas mal. Et Doku, il s'est donné à fond, hein, quel bonhomme lui. Facilement on pourrait avoir ce discours autour de nous, alors que si difficilement on pourrait dire, waouh, tu as vu le ciel hier soir, qu'il est magnifique, Dieu est grand. On est fier d'associer notre nom avec une équipe de football, et on a honte d'associer notre nom avec le Dieu Tout-Puissant, alors que toute la création est faite et est là en train de l'adorer. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui de réaliser le rôle de l'univers, de réaliser notre rôle quelque part dans l'univers, qui est premièrement de rendre gloire à notre Seigneur, de pouvoir dire dans les rues, de pouvoir dire à nos voisins, oui, peut-être il pleut, mais t'inquiète pas, Dieu a de bons projets pour nous, et lui, il sait, il maîtrise toutes choses. Est-ce qu'on est prêt à faire ça ? C'est ce à quoi nous sommes appelés, que ce soit le dimanche ici, avec une belle chorale, ensemble, ou chaque jour, avec notre voisinage, avec notre entourage, avec notre famille, nous sommes appelés à rendre gloire à ce Dieu Tout-Puissant, ce Dieu qui maîtrise toutes choses. Je vous invite à continuer notre lecture, nous sommes maintenant au chapitre 5, et nous allons lire les 4 premiers versets. Chapitre 5, versets 1 à 4. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte : Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Jusqu'ici notre lecture. Ici, nous voyons Jean, qui est passé de l'autre côté, qui voit ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le monde céleste, qui voit Dieu sur son trône, et il le voit avec un livre, un rouleau, ça peut être aussi traduit de cette sorte. Et il le tient où ? Dans sa main droite, symbole d'autorité. Et à l'époque, un rouleau, c'était un peu comme un décret d'autorité du gouvernement. Lorsqu'on envoyait un rouleau, écrit à l'intérieur, à l'extérieur, c'était un décret important. Et les sceaux marquent l'importance de ce décret. On a Dieu rempli de puissance d'autorité sur son trône, qui tient dans sa main droite un décret d'autorité. Et là, chose terrible pour Jean, chose terrible pour nous, ce rouleau est fermé. On sait que Dieu préside, mais on ne sait pas ce qu'il a préparé. C'est terrible. Et on s'imagine Jean, plein de détresse, qui se dit « Je suis là, enfin, je vois Dieu, mais je ne peux pas voir ce qu'il a prévu pour l'humanité. Je ne peux pas voir ce qui va se passer demain, ce qu'il a prévu, ce qui est là, ce qu'il tient dans sa main. » Et peut-être même cela ne peut pas être déclenché. Et on voit Jean ici qui est attristé de la situation. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer dans la suite ? Mais alors qu'il est là dans cette situation, un ancien vient le trouver. Regarde avec moi verset 5. « Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. » Ah ! Aucun homme n'est en position de venir ouvrir, personne, même pas cet être puissant avec la tête d'un lion, même pas celui avec la tête d'un taureau, personne, aucun être vivant sur terre ne peut venir ouvrir. Mais quelqu'un a la puissance, quelqu'un a la capacité, quelqu'un est digne assez que pour ouvrir ce rouleau. Qui est-il ? On nous le décrit ici comme le lion de la tribu de Juda. On s'imagine un lion puissant, qui par sa puissance est digne de venir prendre ce rouleau et l'ouvrir. Et vous allez voir que ce qui nous est décrit après, ce n'est pas un lion majestueux et puissant. C'est quelque chose de différent et de quelque part plus beau. Lisons ensemble à partir du verset 6. « Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau, debout comme offert en sacrifice. » Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert au sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants répondirent « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Ah, quelle belle description ici. Ici, nous avons une description non pas d'un lion puissant, mais d'un agneau. Et même décrit comme un agneau qui est offert en sacrifice. Ce qui rend cet agneau digne d'ouvrir les sceaux, digne de lancer ce décret, ce jugement pour l'humanité, ce n'est pas sa puissance, mais c'est le fait qu'il s'est humilié, qu'il est mort pour sauver des hommes de toute nation, pour nous racheter. Cet agneau, bien entendu, vous le savez, c'est Jésus-Christ. Et c'est intéressant de voir ici que la louange qui est due à l'agneau est exactement la même louange qui est due à celui qui est sur le trône. L'agneau est digne, l'agneau est glorifié, et on entend l'entourage qui le glorifie avec le même vocabulaire. Tu es digne de recevoir honneur et gloire. On a le même vocabulaire ici, parce que nous avons une autre facette de Dieu. Nous avons ce Dieu tout-puissant, trois fois saint, Dieu le Père qui siège sur le trône, et Dieu l'agneau, Dieu qui vient se faire homme, qui vient payer pour nous. On a ici l'agneau qui a payé, qui nous a racheté, et qui est celui qui vient ouvrir ce rouleau. Et ce rouleau est très important pour le reste de l'Apocalypse. En fait, une fois que ce rouleau est déclenché par l'action de l'agneau, on se rend compte que tout ce qui est écrit dedans s'enchaîne. Une fois qu'on retire les sept sceaux, à chaque sceau, quelque chose se passe. Alors qu'on retire le septième sceau, on a les sept trompettes qui arrivent. Cette trompette, c'est du chapitre 8 à 11. Et puis, une fois qu'on arrive à la fin de la septième trompette, on a les sept signes, avec la fameuse bête qui sort terrifiante de la mer. Puis on a les sept fléaux ou les sept coupes des chapitres 15 à 19. On a toutes ces choses qui s'enchaînent, toutes ces choses qui ont été prévues par Dieu, bien que terrifiantes. Dieu l'avait prévu, Dieu l'avait décrit dans son décret, dans son rouleau. Et si ça se met en route, c'est parce que l'agneau a mis cela en route, c'est parce que c'est l'agneau qui retire ces différents sceaux. C'est Dieu sur le trône qui a décidé de toutes choses. Et c'est l'agneau qui préside, qui conduit la destinée de l'humanité. Aujourd'hui, rien de ce qui se passe dans le monde, rien de ce qui se passe dans nos vies est hors de contrôle pour Dieu qui a tout prévu. Et l'agneau qui est là, qui nous a sauvés, qui nous a restaurés et qui marche à nos côtés. Et nous aussi, nous avons cette chance de pouvoir, avec toute la création, glorifier l'agneau. Ici, la raison pour laquelle l'agneau est glorifié, c'est parce qu'il est mort en sacrifice. Et nous avons les 24 anciens, nous avons les 4 êtres vivants qui louent. Mais ici, on a même plus de personnes. On a les prières des saints qui peuvent monter à Dieu, qui peuvent monter au trône grâce à l'œuvre de l'agneau. Si aujourd'hui nous pouvons louer Dieu pour sa création, pour ce qu'il fait dans nos vies, pour son pardon, c'est grâce à l'œuvre que l'agneau a accomplie. Si aujourd'hui nous pouvons nous joindre aux myriades d'anges qui glorifient Dieu, c'est grâce à l'œuvre que l'agneau a fait sur la croix pour nous. Cet agneau est merveilleux, il préside toutes choses. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est vraiment le personnage central. On a tendance, quand on parle d'Apocalypse, à dire « oui, de la bête, oui, le faux prophète, l'Antichrist, à voir toutes ces choses qui font peur », alors que c'est juste 2-3 chapitres. Mais tout du long de l'Apocalypse, nous avons l'agneau qui est là, qui est présent. Nous avons cet agneau qui œuvre. Et je vous invite juste pour nous délecter de qui est cet agneau, nous délecter de l'œuvre de Jésus-Christ, celle qu'il a fait et celle qu'il est en train de faire pour nous. Je vous invite simplement à lire quelques versets en Apocalypse. Je vous en fais la lecture. Apocalypse 12, verset 11, nous dit « Ils, les chrétiens, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage et n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Si les témoins que nous sommes ont pu demeurer, tenir ferme, ici, il nous le rappelle, c'est grâce au sang de l'agneau. Chapitre 7, verset 17. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources d'eau de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Si aujourd'hui on peut trouver dans nos épreuves un réconfort, si on peut être sûr qu'il conduit notre chemin, notre route jusqu'à la destination finale, c'est grâce à l'agneau. Et puis chapitre 17, alors qu'il y a ce combat, on va dire cosmique contre Dieu et l'agneau. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Apocalypse 17-14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Ici, on peut voir qu'à tous ces grands moments de l'histoire, de nos vies, de l'humanité, ce qui est décisif, ce qui fait la différence, c'est l'agneau. Face aux épreuves, celui qui nous permet de tenir bon, c'est l'agneau. Lorsque nous serons auprès de Dieu dans l'éternité, c'est l'agneau qui essuiera nos larmes et qui nous conduira. Et alors que le monde entier essaiera de combattre les saints, alors que le monde entier sera en opposition avec l'agneau, avec Dieu, c'est l'agneau qui apportera la victoire finale. L'agneau est la clé de la Bible, de l'Apocalypse et de notre avenir. C'est par lui, oui, que l'humanité sera jugée, mais c'est par lui que ceux qui l'ont accepté seront justifiés, seront sauvés pour l'éternité. Alors il est bon de se questionner, c'est vrai que tous, nous avons cette envie de savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté. Il est bon de se rappeler que Dieu a décrété ce qui allait se passer, et il est bon de se rappeler que l'agneau est là, qu'il est en train de tout conduire, celui qui nous a sauvés et qui nous conduit dans l'éternité. Quelques applications pour nous aujourd'hui. Il est bon, alors que nous pensons à l'adoration que Dieu mérite, il est bon que nous puissions fixer encore et encore nos regards sur lui. Peut-être durant les vacances, alors que nous promènerons à la montagne ou que nous ferons face à la fureur et à la puissance de la mer, il est bon de penser que Dieu est derrière tout ça et qu'en fait, cette mer agitée ou que cette montagne majestueuse ne sont que des marchepieds autour du trône de Dieu. Dieu est ô combien plus grand, celui qui a tout créé. Que cela nous pousse à glorifier Dieu alors que nous nous émerveillons de la nature. Mais aussi, il est bon de nous rappeler que si aujourd'hui notre adoration peut arriver auprès de Dieu sur le trône, c'est grâce à l'œuvre de l'agneau. Il est bon de se rappeler que adorer, oui, c'est regarder un beau coucher de soleil, que oui, adorer, c'est être entre frères et sœurs, mais que si nous pouvons adorer, c'est grâce à l'agneau. Quelque part, l'adoration commence lorsque nous regardons à nous-mêmes et que nous réalisons que face au jugement dernier, face à l'éternité, nous ne faisons pas le poids et que nous avons entièrement et totalement besoin de l'agneau. Alors il est bon que nous puissions nous rappeler durant nos congés, oui, à travers la création, Dieu est grand, mais il est aussi bon de se rappeler, j'ai besoin de l'agneau pour l'adorer, j'ai besoin de l'agneau pour être pardonné, et j'ai besoin de l'agneau jusque dans l'éternité, jusqu'au jour où je le rencontrerai, je le verrai face à face, et où il essuiera toutes mes larmes. Je vous invite pour finir ce moment à prier. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, car tu es ce Dieu tout-puissant qui contrôle, qui maîtrise, qui gère chaque chose. Seigneur, merci pour cette merveilleuse création. Merci pour la nature qui te glorifie. Merci Seigneur pour cette vie que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour l'agneau, celui qui a payé pour nos fautes, celui qui s'est sacrifié pour nous. Et Seigneur, nous voulons reconnaître, je veux reconnaître que je ne t'apporte pas l'adoration que je te dois. Pardon pour ces moments où j'ai peur d'associer mon nom au tien. Pardon pour ces moments où j'en oublie, pressé par mes inquiétudes, à regarder à toi et à t'offrir la louange et la gloire. Et pardon pour toutes ces fois où je crois que par moi-même, je suis digne de m'approcher de toi. Seigneur, pardon pour cela, mais merci, parce que par l'agneau, tu nous purifies, par l'agneau, tu nous justifies, par l'agneau, tu nous donnes cette chance, cet honneur merveilleux d'associer notre nom au tien et de pouvoir te glorifier au siècle des siècles. Sois loué, Seigneur, pour qui tu es, sois adoré. Faisons cette prière en Jésus. Amen.